Bonjour Lauriane, Lauriane
Bonjour
Gourrier.
Julia.
Bonjour. Donc, je te reçois dans une nouvelle émission de la Tribune des Vagabonds du Rêve. Donc, avant qu'on se lance pour parler de ton livre, je vais un petit peu te présenter dans quel cadre se situe cette émission. Donc, en fait, c'est une émission il y a une association qui s'appelle Les Vagabonds du Rêve. C'est aussi une maison d'édition et qui a recréé, remis à jour, relancé une web revue qui peut être aussi papier, qui donc une revue sur les imaginaires, tous les imaginaires. Donc, les Vagabonds du Rêve ont créé en tant qu'éditeur des anthologies. Des imaginaires. Ils ont beaucoup édité de jeux de rôle et entre autres, ils sont les parents de Nice Fiction, du festival de Nice Fiction, donc depuis 2015. Mon émission se situe là-dedans, donc Sybille Marchetto et Jérôme Gayol qui sont les parents de cette association, en tout cas pour cette partie-là. Mon convié, mon gentiment invité a créé une émission littéraire donc qui est filmée en direct, qui a lieu les jeudis à 18h. Donc c'est pour ça qu'on s'est calé, ça tombe bien, commencé pendant les vacances scolaires. Et puis, il devrait y en avoir deux par mois, toujours en direct, le jeudi à 18h. Donc, en fait, dans ce cadre-là, donc pour nous deux, c'est une première, hein, c'est une nouvelle. Toi, parce que tu y es invité, moi, parce que je te reçois, voilà, si on peut dire. Et donc, en fait, tu viens de sortir chez l'éditeur Maultinus un roman qui s'appelle Selma Lagerlöf contre les trolls. C'est un roman dont on va parler un peu plus après quand tu te seras présenté, qui n'est pas de la science-fiction, qui a l'air d'être plutôt autour je dirais, plutôt une connotation immersion fantastique, peut-être, tu me diras.
Oui.
Voilà, oui, peut-être qu'il n'a aucun modèle non plus. Et ce qui est surprenant, c'est que cette Selma Lagerlöf est connue, ben c'est une grande écrivaine dont tu vas aussi nous parler un petit peu. Et ce n'est pas une biographie.
Non.
Ton héroïne est une femme qui a existé, donc au 19e, 20e siècle, mais elle a écrit, elle a été primée, mais ce n'est pas sa vie que tu racontes. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant, donc c'est ça qui est étonnant aussi. Et en fait, j'ai préparé quelques questions parce que j'ai repotassé le livre et puis on avait un peu échangé avant. D'abord, j'aimerais que tu te présentes en tant que, enfin, que tu dises ce que tu as envie sur tes activités autour de l'imaginaire, de l'écriture, de la lecture, enfin ce que tu fais. Si tu veux aussi parler de ton métier, pourquoi pas? Peut-être qu'on en reparlera un petit peu plus tard quand on parlera du roman lui-même. Et voilà, donc je te donne la parole à toi.
Alors, bah, tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Ça me fait très
Oui.
plaisir d'être invitée, en plus d'avoir la chance d'inaugurer cette émission. Donc, vraiment, merci beaucoup. Alors, pour me présenter, je suis une grosse lectrice depuis toujours et j'aime en particulier tout ce qui est littérature de l'imaginaire. D'ailleurs, là, je viens de passer la main, mais pendant 10 ans, j'ai collaboré à la revue Galaxie, où je coordonnais la rubrique critique. Et où j'écrivais moi aussi des critiques, en plus bah, de corriger, d'organiser le travail de mes collaborateurs critiques. J'ai aussi participé à l'organisation de deux conventions de science-fiction, l'une en 2012 et l'autre l'année dernière, en 2020. Donc ça fait quelques années également bah, que je fréquente beaucoup les festivals en tout genre, que j'échange beaucoup avec des passionnés d'imaginaire sur Internet. Et surtout que je lis beaucoup, beaucoup.
Donc, en quelques mots, t'as bien fait. La dernière,
Pour aller à l'essentiel.
oui, la dernière, je sais pas si tu as envie d'en parler, la dernière convention, c'était où?
Alors, c'était à Orléans en 2020. C'était une convention un peu particulière parce qu'on a été sur le film jusqu'au dernier moment en raison des conditions sanitaires. Donc, elle ne s'est
Oui,
pas forcément
2020.
déroulée comme on l'avait imaginé 2 ans auparavant, au moment où notre candidature avait été retenue. Et elle s'était déroulée sur le thème de la voix des voix, donc les voix en général, de ceux qui parlent, de ceux qui écrivent, et surtout autour des voix des traducteurs en tant que passeurs de voix, dont on se disait que le travail est d'une extrême importance, que ce sont des auteurs et des autrices aussi, à leur manière, quand ils vont traduire d'autres plumes, et que ce travail mérite d'être connu. Même si une des réflexions qui est revenu à plusieurs reprises lors de cette convention, était le fait que petit à petit, quand même, ça commençait à émerger. Donc, on est très content d'avoir pu l'organiser, même si ça a été, matériellement, ça a été un peu compliqué.
Oui, j'imagine, parce que ça n'a pas été... Oui, c'était à l'été. L'été, la convention, c'est toujours en été,
oui,
mois d'août.
Les conventions ont toujours eu l'été.
C'était la fenêtre, en fait, parce qu'après,
voilà.
le Covid nous a rattrapés. Alors maintenant, en fait, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ce projet de la Ligue des écrivaines extraordinaires. Tu es une des autrices, finalement. Tu as eu un personnage. Donc, si tu pouvais nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, de la filiation, parce que finalement, tout à l'heure, on échangeait, tu parlais d'une première vague de ces écrivaines, et comment, et puis après, on discutera un petit peu de savoir comment on travaille, en fait, quand on vous dit, voilà ton personnage, voilà, invente une histoire dessus, et non pas la démarche habituelle, tiens, j'ai envie d'écrire là-dessus et comment je fais pour écrire là-dessus, ce que tu fais par ailleurs. Voilà, donc
oui.
tout à fait.
Oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé.
Voilà, mais on en parlera après. Voilà, mais écoute, vas-y.
Alors, avant la Ligue des écrivaines extraordinaires, il y a une collection chez les Moutons Électriques qui s'appelait Les Saisons de l'étrange, où le principe était de proposer des pulps. Alors, le pulp, pour présenter un petit peu ce que c'est une littérature de divertissement qui porte son nom, enfin, qui doit son nom au papier de mauvaise qualité sur lequel c'était imprimé dans les années 20. Donc, l'idée, c'était vraiment d'avoir des récits qui tiennent la route quand même, mais qui soient des récits qui font plaisir, qu'on prend plaisir à lire vraiment pour se distraire, pour passer un bon moment. Et au sein des Saisons de l'étrange, alors quelqu'un un jour imaginait, tiens, mais si on faisait un truc un peu à part, avec pour personnage des grandes écrivaines de la littérature qui affrontent les forces du mal. Et c'est de là qu'est venue l'idée de la Ligue des écrivaines extraordinaires. Donc, il y a eu un premier projet lancé avec 5 titres. On va rencontrer, par exemple, Mary Shelley qui va affronter Frankenstein, ou il y a Anne Radcliffe qui va affronter Dracula. Et le principe de base, c'était vraiment ça. Et ces romans, un autre principe aussi cher à Christine Luce, la directrice de collection, c'est que ce sont des femmes qui écrivent ces romans, qui mettent en scène d'autres femmes avec une coloration également féministe dans ces récits. Donc la première série de 5 titres est parue, et puis là-dessus, comme ça a bien marché, et l'idée a été lancée de continuer, de proposer une relève avec d'autres titres, et c'est là qu'arrive Selma Lagerlöf, contre les trolls, aux côtés de Virginia Woolf, contre Ram Togot, et de René Dunant, contre les mutants, qui sont les 3 titres de la relève, dont les couvertures sont absolument magnifiques. C'est peut-être le moment de les montrer, d'ailleurs.
Oui, oui, vas-y, montre-les-nous.
Donc, voilà, donc Selma Lagerlöf contre les trolls, dont on reparlera
ça,
tout à l'heure.
Ça, c'est le tien, oui.
Et puis, les 2 autres, voilà. Donc, l'illustrateur, c'est Melchior Ascarit, qui a fait un travail absolument, absolument merveilleux.
Oui, oui.
Moi, je suis très, très heureuse du résultat.
Oui, oui, c'est effectivement, le tien est dans les tons rouges,
voilà.
et gris et noir, voilà. C'est effectivement chaque couverture a sa thème,
oui.
Ses thèmes de couleurs différents. Donc voilà, c'est le pulp, c'est de réécrire du pulp, parce que je ne sais pas si le pulp était féministe à l'origine. Voilà, donc du pulp féministe. Et
alors peut-être à la marge, après ce n'est pas forcément non plus un type de littérature dont je suis une grande spécialiste.
Oui, et puis de toute façon, ça reflète aussi la période où ça a été écrit. C'était ça, sans doute. Et bah, puisqu'on est sur le féminisme, j'ai aussi une petite question avant qu'on entame l'histoire proprement dite. Le féminisme dans la société suédoise de cette époque, ainsi que l'homosexualité dont on a parlé un moment à propos de cette héroïne qui en fait était une personne réelle, est-ce que tu peux en dire quelque chose? Parce que c'est un peu... est-ce qu'on avait à cette époque-là des personnes qui pouvaient s'affirmer en tant que femmes? Parce qu'on connaît dans la littérature classique des femmes qui ont écrit sous des noms masculins, et ça n'a pas été le cas de Selma Lagerlöf.
Alors là, j'avoue que je n'ai pas assez creusé l'histoire littéraire suédoise. Néanmoins, je pense que
Non,
si...
c'est plutôt
Il y
cette
a...
idée de femme forte qui gagne sa vie, qui travaille, qui... C'est plutôt ça, on peut
Alors
pas faire
ça, oui,
l'histoire de la littérature tout à
ça,
fait.
c'est quelque chose qui était possible et même réel, puisque Selma Lagerlöf ne s'est pas mariée. Elle a gagné sa vie tout d'abord en tant qu'enseignante et ensuite en écrivant des livres. Et le prix, tu parlais tout à l'heure bah, du fait qu'elle a été primée, elle est quand même la première femme à avoir reçu le prix Nobel de littérature, ce qui est quand même une belle avancée, je trouve,
Tout à fait, oui.
pour son roman Costa Berling.
Et le fait qu'elle ne se soit pas mariée, c'est parce qu'elle devait gagner sa vie ou parce que c'était un choix?
Alors, en creusant un petit peu ce que j'ai pu trouver sur sa biographie, alors j'ai un peu pioché les éléments qui m'intéressaient, qui me
Oui,
semblaient pertinents.
j'imagine.
Donc, je vais peut-être dire des grosses bêtises historiques, mais ce que j'ai trouvé à ce sujet, enfin ce qui est réel en tout cas, c'est que son père a dilapidé au fil des années la fortune familiale. Elle est née dans une famille qui était une famille protestante, plutôt aisée, qui vivait dans un grand domaine. Et un beau jour, quand elle était âgée d'une trentaine d'années, d'ailleurs, ce domaine, Marbacka, où se déroule une partie de l'histoire de Selma Lagerlöf contre les trolls, a dû être revendu, tant les dettes de la famille étaient importantes. Et pour les spécialistes de Selma Lagerlöf, on considère longtemps qu'elle ne s'est pas mariée en raison de ces questions financières, du fait qu'elle aurait dû travailler, qu'il n'y aurait pas eu forcément de dot pour elle. Or, bah, il y a quelques années de ça, sa correspondance a été rendue publique. Et là, on s'est rendu compte qu'elle vivait à côté de ça des amitiés féminines qui auraient été sans doute plus que des amitiés, ce qui n'était pas du tout associé à l'image qu'on pouvait avoir d'elle. Et c'est vrai que c'est un aspect un peu mystérieux. Je me suis dit, finalement, est-ce que ça me regarde, moi? Bah, non, pas tant que ça, mais peut-être qu'il y a quand même quelque chose à garder autour du mystère qui va entourer le personnage réel. Et que je vais
Oui.
peut-être pouvoir en faire quelque chose aussi dans mon histoire.
Et justement, donc tu as découvert ce personnage, et puis après, comment on peut dire, comment est-ce qu'on travaille sur commande? Parce que là, tu nous donnes déjà des éléments. C'est une commande, enfin, c'est pas péjoratif, c'est-à-dire que c'est presque un jeu. Donc, comment on se dit, tiens, voilà ce qu'on m'a donné comme sujet ou comme projet ou comme personnage, qu'est-ce que j'en fais? Donc, tu es allé chercher des éléments et tu as construit une histoire qui dépasse le personnage, bien sûr, réel, historique, puisque on est dans le pulp, on est dans la fantaisie, dans le sens de l'imaginaire, de la création. Donc, on se moque un petit peu de là. Quand on lit Selma Lagerlöf, on sait que on a vite compris que ce n'est pas une biographie, mais quelque chose d'autre, de différents. Donc, du coup, comment un écrivain, comment toi, écrivaine, tu as pu travailler comme ça, parce que c'est pas évident, peut-être, dans ton processus de création. Comment tu as fait pour te servir de ces maigres éléments pour construire quelque chose, quoi, qui soit ce roman qu'on lit d'un bout à l'autre et qui est un livre d'action, de mystère?
Comme tu l'as dit, je pense qu'aussi ce qui m'a séduite dans le projet, mis à part le côté féministe, c'est aussi l'aspect jeu, avec ce côté comment est-ce qu'on va prendre une réalité qui est très sérieuse, qui n'est pas forcément rose, qui n'est pas forcément accessible ni connue de nous finalement, enfin, parce que j'ai beau avoir une formation littéraire, au final la littérature suédoise, moi je la connaissais très peu, hein. Pour moi, Selma Lagerlöf, c'était l'autrice du merveilleux voyage de Nils Holgersson, que j'ai relu pour l'occasion, donc en sachant aussi que c'est un livre de commande que lui avait commandé le ministère de l'Éducation suédoise pour expliquer aux petits-enfants suédois toutes les belles merveilles de la Suède. Donc, c'est un livre avec des côtés didactiques, en plus de l'aventure, que j'avais découverte toute petite à la télé grâce aux dessins animés qui passaient dans les années 80. Donc, pour moi, Selma Lagerlöf, c'était seulement ça. Ce qui m'a aussi intéressée, c'est le « Contre les trolls », où là, finalement, on prend la bascule, où les trolls, ben, en termes de force maléfique, a priori, c'est pas forcément les plus séduisants. Ils n'ont pas le charisme du vampire, ils ne vont pas avoir le côté grandiose des dragons. Et c'est l'autre aspect qui m'a séduite, en fait. Disons que c'était une créature monstrueuse dont je me suis dit qu'on avait encore beaucoup de liberté pour la travailler, qu'elle avait peut-être été moins exploitée que d'autres, et que de fait, ça permettait, en tout cas moi en tant que lectrice, ça me permet d'avoir peut-être moins d'a priori quand je vais croiser un personnage de troll qu'un personnage de vampire ou de sorcier. Donc ça a été, je pense que c'est parti de là. Je me suis demandé ce que j'allais pouvoir faire de cette femme qui par ailleurs était quand même quelqu'un de sérieux pour, pour ce que j'ai pu en voir, en l'associant à ces monstres qui ne l'étaient pas du tout, tout en essayant de rester le plus réaliste possible, parce que ça faisait partie du projet aussi, de réellement s'inspirer de choses réelles, d'avoir un côté très réaliste pour raconter une histoire qui ne l'est absolument pas. Donc j'ai aussi lu des romans qui se passaient en Suède, qui ne m'ont pas forcément intéressée, mais pour essayer de me plonger vraiment dans l'ambiance de ce que c'est que la Suède, qui est un pays que je ne connais pas non plus. J'ai lu beaucoup de choses de Selma Lagerlöf, notamment Marbacka. Je sais que je le prononce très mal, parce que j'ai écouté du suédois aussi pour me mettre dans l'oreille, et non, je n'y arrive pas. Donc Marbacka, c'est son autobiographie, et là ça a été, et là en fait j'ai plein d'idées qui me sont venues à l'esprit, parce que elle décrit vraiment les lieux de son enfance avec beaucoup d'affection et beaucoup de détails aussi. Donc j'avais en tête une bonne partie du théâtre du roman qui était encore en gestation à ce moment-là. Elle a aussi écrit des nouvelles fantastiques qui m'ont beaucoup rappelé celles de Maupassant, et qui sont très agréables, qui sont très accessibles. Donc elle avait aussi un côté lié au merveilleux, parce que le folklore, les contes, c'est aussi quelque chose avec lesquels les petits-enfants suédois grandissaient réellement au XIXe siècle.
Oui, ça y est, on le voit dans le roman.
Oui.
Dans le roman lui-même. Bah, écoute, on va arrêter de tourner autour du pot maintenant, et tu vas nous présenter l'intrigue et les personnages, en fait, en gros, sans déflorer le sujet, bien sûr.
Je vais essayer.
Parce que l'idée, c'est qu'à la fin, les gens courent l'acheter aux Utopiales, qui sait.
Mais oui, tout à fait.
Voilà.
Là, j'en emmène une grosse pile.
Voilà. Et donc, parle-nous, présente-nous, et puis après, on parlera de quelques éléments plus précis, mais. Qui font ce monde qui est quand même très surprenant au début quand on entre dans le livre, donc qui est très poétique aussi d'ailleurs. Alors vas-y, à toi.
Alors,
qu'est-ce que raconte Selma Lagerlöf contre les trolls?
Alors je vais essayer de pas trop m'étendre, mais tout commence en fait quand elle est toute petite fille, parce que pendant les premières années de sa vie, Selma Lagerlöf a été atteinte d'une tuberculose osseuse qui lui a laissé des séquelles par la suite, et petite fille, elle ne pouvait pas marcher. Donc une partie de sa famille, enfin même sa famille, pensait qu'elle resterait handicapée, qu'elle ne marcherait jamais. Et puis, lors d'un voyage, alors ça, je pense qu'il y a une part peut-être de mythologie familiale, un beau jour, lors d'un voyage sur un lac, hop, elle s'est levée. Donc, je ne suis pas certaine que ça se soit passé comme ça, mais toujours est-il que quand elle était enfant, elle ne pouvait pas se déplacer librement, donc elle passait beaucoup de temps au coin du feu à écouter les histoires que lui racontait sa gouvernante ou d'autres personnes du village autour d'elle. Donc, je suis partie de ça en l'imaginant petite fille avec une vieille dame qu'elle surnommait Tante Maga, dont on sait assez rapidement dans l'histoire que c'est une femme de caractère, pour le coup, qui aurait une connaissance un petit peu surnaturelle de toutes les créatures qui vivent dans la nature suédoise. Et donc, un beau jour, alors que cette femme est là pour la surveiller, parce que Tante Maga a des soupçons sur les capacités qu'aurait Selma, eh bien, il se trouve que la petite Selma voit un oisillon tomber du nid. Et là, il y a une espèce de tas de cailloux qui vient lui arracher la tête. Donc, elle est absolument horrifiée. de voir ça. Et puis la tante Maga arrive, ramasse le tas de cailloux et lui dit « Ah, ben, en fait, ma petite fille, tu peux le voir, bon, ben, je suis très triste pour toi parce que finalement, tu vas avoir de grandes responsabilités. » Et effectivement, de là, ben, Selma découvre qu'elle a une capacité de... Alors peut-être, j'aimerais pas trop parler de double vue, mais peut-être de perception ou d'attention au monde qui l'entoure, qui est supérieur à la moyenne et qui lui permet de voir en fait toutes ces créatures un peu magiques, un peu merveilleuses qui habitent la Suède, qui habitent le monde dans lequel on vit. Donc ça, c'est quand elle est petite. Donc là-dessus, on passe à l'âge adulte où il y a des vacances dans le pensionnat pour lequel elle travaille. Elle revient donc retrouver sa famille à Marbacka. Et là, une dame du village vient de mourir. Donc son retour n'est pas la fête habituelle, elle est très triste. Et puis, dans les jours qui suivent, un garde-chasse qu'elle connaît bien, puisque c'est une petite communauté, vient la chercher et lui dit bah, « Écoutez, vous allez devoir venir avec moi. J'ai une lettre à vous remettre. Je dois vous accompagner sur un lieu où un crime épouvantable a été commis. J'en suis vraiment désolée. Une dame ne devrait pas voir ça. » Donc, Selma lit la lettre qui lui confie une mission qui va être d'enquêter sur ce meurtre épouvantable puisque la Ligue des écrivaines extraordinaires la contacte et considère bah, qu'elle est la personne de la situation. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais l'idée de cette ligue, c'est qu'à chaque fois, les écrivaines de la série sont contactées par la ligue, par un moyen ou un autre, mm-hmm. qui va leur confier une mission. Et donc, la mission de Selma Lagerlöf, ça va être bah, de voir ce qui se passe avec les trolls, puisqu'il y a quand même toutes les chances que ce soit eux les coupables, et d'essayer de comprendre pourquoi, du jour au lendemain, ils redeviennent des monstres sanguinaires alors que tout allait bien auparavant.
Voilà, et puis on va s'arrêter là parce que oui, on va parler des choses, sinon tu vas nous raconter toute l'histoire. Un peu de violence, disons, pas mal de violence oui. finalement. Parce que, et en fait, avant je voulais parler aussi de la construction des paysages, mais avant, en fait, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappée, c'est que les trolls sont vraiment des créatures de pierre. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ta façon de transformer des éléments de paysage, surtout dans certaines scènes particulièrement fortes, en créatures avides de sang, du coup, parce qu'elles sont furieuses contre le genre humain. Mais c'est vrai qu'il y a ça, il y a je trouvais très, très puissante cette image de... En fait, une falaise qui devient un troll, enfin, c'est presque du film, quoi, presque animé, quoi, pour le coup, si on peut dire.
Merci. Donc,
non, mais c'est réel, hein, surtout l'une des dernières scènes, mais je ne vais pas la raconter parce qu'elle est vraiment belle en plus. Donc, du coup, c'est assez. C'est quand tu as construit effectivement ces créatures, donc tu m'as parlé des trolls. Il y a un autre petit personnage qui est une espèce de fée du logis, si on peut dire, qui s'appelle les tontes, qui ne sont pas des fées, mais des sortes de gnomes, peut-être, de gnomes.
Et en fait, comme ça. Oui, parce que pour le coup, les tontes, c'est vraiment des personnages très, très, très répandus dans le folklore suédois. Mmh. Et d'ailleurs, on en croise un dès les premières pages du Merveilleux Voyage de Nils Holgersson. Ce sont vraiment des petits lutins qui sont les protecteurs des maisons. Et auquel on attribue des pouvoirs magiques. Et un des grands drames de Selma quand elle est petite fille, c'est de se dire, mais il paraît qu'il y a un tonte ici, donc on leur laisse des restes à disposition pour qu'ils viennent les chercher. Et un des grands mystères de Selma petite fille, c'est de se dire, mais bon sang, moi j'aimerais bien les voir, les tontes. Et puis au final, elle est en capacité de les voir aussi.
Oui, puis ils ont un rôle à jouer aussi, parce qu'elle va se retrouver à gérer tous ces héros surnaturels, si on peut dire, dans le roman, pour arriver à boucler son enquête, parce qu'elle mène une enquête assez dangereuse en plus. Oui, il y a aussi une chose dont tu m'as parlé, c'est comment tu as créé le paysage du roman. Qui n'est pas uniquement un décor, puisqu'il génère des puissances et des forces, mais c'est aussi un voyage dans le voyage, c'est aussi, il fait partie, c'est aussi un protagoniste du, ne sais pas comment dire, c'est la nature quand elle va sous l'eau, quand elle va dans la forêt, c'est une nature qui est animée. Animée et où tu n'as pas encore eu l'occasion de te rendre pour le constater toi-même.
Mais non.
Mais tu as réussi avec une autre nature animée qui est celle de l'Orléanais, si je peux dire. Donc, si tu peux nous dire un petit peu comment tu as tricoté finalement ce nouveau décor à partir d'un décor complètement imaginaire, même si tu as travaillé, j'imagine, bien sur des documents réels, sur des livres, et puis ce que tu as vécu, enfin, entre guillemets, dans ta chair, la région où tu habites et dont la nature a beaucoup d'importance dans ton roman. Donc, c'est assez…
Oui, puis je pense qu'au début, c'était pas forcément quelque chose de volontaire. Ça s'est fait, je pense qu'elle a pris de plus en plus de place sans que je ne m'en aperçoive au fur et à mesure de l'écriture, parce que j'avais ce grand souci du réalisme, toujours pour un récit qui l'est pas une seule seconde finalement. Mais je voulais vraiment un cadre qui soit réel. Alors c'est vrai que moi j'ai grandi au fin fond de la campagne, là où il y avait de la forêt, les arbres, c'est quelque chose qui m'est très familier. Mon père était ébéniste, il travaillait le bois, enfin j'ai connu le bois sous toutes ses formes. Donc la forêt, pour moi, c'est un cadre qui m'est familier. Une question que je me suis vraiment posée, c'est finalement, moi je connais la forêt française, là, de chez nous, en région centre, mais la forêt suédoise, c'est certainement pas la même. Donc j'ai lu beaucoup de choses, j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur Google Images aussi, à voir comment étaient situées les montagnes les unes par rapport aux autres, la géographie des lacs, j'ai lu des guides touristiques, enfin, et puis plusieurs romans suédois pour la jeunesse aussi, dont un dont j'ai totalement oublié le titre, où c'était l'histoire d'une jeune fille. Alors c'était une histoire fantastique, et cette jeune fille vivait dans une zone, donc il y a beaucoup d'îles en Suède, dans une zone, enfin sur une île, et tous les matins elle prenait son bateau pour aller à l'école, enfin avec des éléments où elle parlait des arbres qu'elle pouvait croiser, des oiseaux, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, je notais de temps en temps, je me disais, tiens, un choucasse. Alors un choucasse, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, est-ce qu'on dit chouca, choucasse? Je ne sais pas. Bon, ça fait local, ça je vais garder, je m'en servirai peut-être. Donc j'ai accumulé tout un tas de choses, dont certaines que je n'ai pas du tout, que je n'ai pas utilisées. Hein. Et je pense que petit à petit, ça s'est construit comme ça. Vraiment, à force de regarder des photos, d'aller lire des récits de gens qui avaient voyagé, qui avaient campé dans les forêts. Enfin, je pense que c'est un cumul de choses annexes ou de magazines de voyage que j'ai feuilletés d'un œil distrait pour aller piocher un détail de temps en temps qui me semblait intéressant, pas forcément pour le regarder, mais pour essayer de coller le plus près à ce qu'on peut réellement trouver dans les environs de Marbacka. Alors peut-être qu'un Suédois qui connaît la région ne va pas du tout s'y retrouver, hein. Ça c'est possible aussi.
Ça, on ne sait pas, hein. Si je peux dire, chaque fois qu'on décrit un décor ou un paysage, on le réinvente, donc chacun le voit de sa manière. Donc je ne pense pas que les Suédois viendront, surtout que tu parles de leur grande écrivaine. Il faudrait déjà le traduire en suédois.
On ne sait jamais.
On ne sait jamais. Donc, en fait, il y avait ça qui m'avait frappée. Et puis, il y a aussi quelque chose d'autre qui est intéressant. C'est, en fait, quand on prend le livre, ce sont des chapitres très courts et tous ont un titre. Alors, je sais qu'il y a une certaine fantaisie, une certaine écriture de fantaisie où les chapitres ont des titres. Mais c'est complètement à contre... Enfin, pas contre-emploi, si on peut dire, c'est pas du tout cette démarche que tu as, mais tu as des titres et parfois ça ajoute une note humoristique.
Alors comme
décalé un peu sur
une des consignes de la directrice de collection, c'était qu'il fallait du fun, il fallait qu'on s'amuse. Et j'avoue que sur les titres de chapitres, je me suis fait un petit peu plaisir. Alors comme je te le disais, je sais plus précisément à quel moment je me suis dit que j'allais adopter la démarche pour tous les chapitres, mais j'ai écrit une partie de ce roman pendant le confinement où l'ambiance était quand même triste, déprimée. Oui. Et puis tous les soirs, en jouant au Lego avec mon fils, j'écoutais de la musique joyeuse. Et je suis une grande, grande fan de vieux punk français des années 80. Et puis, eh bien, à un moment, en écoutant Ludwig van 88, je me suis dit, mais ça, donc ils ont une belle chanson qui s'appelle Oulala. Et je
oui,
me suis dit,
il y a
ça,
le titre, oui.
Pour le chapitre avec la scène de torture, ce serait pas mal. Et puis de là, de fil en aiguille, en fait, je pense que l'idée est vraiment venue de là. Donc, il n'y a pas que des titres de chansons, même s'il y en a une grande partie. Après, il y en a beaucoup que j'ai un petit peu remanié aussi. Par exemple, il y a l'antre de la reine de la montagne, parce que quand même, on ne pouvait pas faire autrement que faire référence à la caverne des trolls de Peer Gynt à un moment ou un autre. Et voilà, donc c'est venu comme ça en fait. Et c'est vrai que à la fin, une fois que j'en étais aux dernières relectures, il y a très peu de chapitres pour lesquels le titre ne m'était pas apparu comme une évidence.
Oui, en plus, là, je le feuillette, effectivement. Il y a Brassens aussi.
Et oui,
radeau, ce n'était pas le radeau de la Méduse, si par hasard, sous le pont des Arts. Et après, et pourtant, c'est un contrepoint à des scènes assez terribles, finalement. Parce que, je n'ai pas raconté ce qui se passe, mais
non, alors
quand
après...
on lit ça, on ne s'attend pas à ce qui va arriver, quoi. Donc, en fait, on est surpris en permanence par l'action, les rebondissements. Oui, je pense qu'effectivement, c'est du pulp, quoi. Ça a un côté un peu... Ça part un petit peu...
Le décalage, en fait, qui a parfois me plaisait beaucoup. Enfin, moi, ça m'a beaucoup fait rire, personnellement. Et puis, je crois que c'est Neil Gaiman qui dit que, dans ses conseils aux jeunes écrivains, qu'il faut rire de ses propres blagues. Bon, moi, ça m'a fait rire. Alors, il y aura peut-être que moi, mais bon, c'est pas grave. Hein. J'ai passé un bon moment là-dessus.
Ou ça puis, donne envie de chanter.
Oui,
ça donne des petites musiques dans la tête aussi.
Puis je pense que pour Brassens, entre autres, et puis il y a un certain nombre, il y a le Macadam Circus aussi, des Berruriers Noirs, il y a un tas de choses, les trolls ont un côté très punk, dans le sens où ils sont complètement anarchistes en fait, ils n'en ont rien à faire de rien, ils font ce qu'ils veulent, ils sont dans l'immédiat, du coup je trouvais que ça leur allait très bien aussi.
Voilà, donc c'était... Et en fait, il y avait aussi... Donc en fait il y a aussi un aspect qui est intéressant, c'est que fin 19e, début 20e, c'est l'essor de sciences, c'est le rationalisme qui s'installe, en tout cas je pense que la Suède n'y a pas coupé non plus, et mettre ce roman effectivement à cette période entre guillemets, je mets bien des guillemets, cartésienne, alors que la nature est complètement se rebelle en fait, on a l'impression qu'elle se rebelle, ça a dû aussi être quelque chose d'amusant à écrire, non,
c'est
venu comme ça.
Non, je pense que c'est venu comme ça. Je n'ai pas trop pensé au fait qu'on était dans une période d'avancée scientifique. Non, c'est pas quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Par contre, c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi à cette capacité qu'a Selma Lagerlöf de voir des choses que tout le monde n'est pas en capacité de voir. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a posé beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. C'est-à-dire que ça me paraissait peut-être, je me suis demandé s'il n'y a pas un moment où j'allais trop loin par rapport à la réalité du personnage.
Ah d'accord, oui.
En fait, c'est là où ça m'a... Oui. Je me suis demandé si ce n'était pas peut-être quelque part une sorte de solution de facilité, mais sur le moment, ça, c'est quand même ce qui me paraissait la moins mauvaise. Donc, j'ai décidé quand même de rester sur l'idée qu'elle aurait eu un pouvoir magique en plus, sachant qu'à la fin... du merveilleux voyage de Nils Holgersson. Alors, je me permets de spoiler cette histoire, parce que ça finit bien quand même, Nils Holgersson.
Oui,
il finit par atterrir dans une ferme qui, en réalité, est le domaine de Marbaka. Et puis, il y a un espèce de regard rétrospectif où l'autrice, où Selma Lagerlöf, narratrice de son livre à la fin, écrit qu'elle a rencontré ce petit personnage chez elle. Donc, je me suis dit, finalement, je vais attraper la perche qu'elle avait tendu sans le savoir quand elle avait terminé son roman.
Oui, c'est bien vu. C'est bien vu. Alors, attends, j'ai encore quelques petites questions. Ah oui, alors tu as parlé du Covid, effectivement, écrire un roman de voyage, ou en tout cas, il y a un voyage, parce qu'il y a le personnage, pour trouver la vérité, pour résoudre l'énigme. circulent beaucoup dans des conditions effectivement très dangereuses, dans une nature qui est aussi violente parce que c'est la fin de l'hiver. C'est quand même la période où il est. C'est une période très. Enfin, dans les pays nordiques, c'est l'explosion, quoi. L'eau se dégèle, enfin tout.
Et voilà, puis il fait froid, il pleut, enfin, tout ce qu'elle aimerait faire. D'ailleurs, je crois qu'à un moment, elle le dit quand elle fait étape chez elle. Tout ce qu'elle aimerait faire, c'est s'installer tranquillement à son bureau, écrire des histoires et rester au coin du feu. C'est pas du tout aller crapahuter dans la forêt pour résoudre des problèmes avec lesquels elle avait rien à voir à l'origine.
Oui, voire tomber dans l'eau. Donc, en fait, du coup, ça. Donc, ça, c'était, oui, donc c'était drôle. Enfin, c'était drôle. C'était une façon aussi de s'évader, puisque écrire par temps de Covid, il y a beaucoup d'écrivains qui ont eu beaucoup de mal à le faire. Hein,
parce que je ne dis pas que ça a été facile. Ce n'est pas là que j'ai été le plus efficace. Non, c'est là que j'ai eu les idées décalées en me disant tiens, et si se passait ça? Et si je mettais cette phrase-là? Et si je donnais des noms complètement absurdes à mes chapitres?
Oui, d'accord, c'est une défense.
C'était plutôt une défense. Ça.
Et justement, mais on a parlé des trolls et de la communication, du fait que certaines personnes, il n'y a pas qu'elles, sinon qui les voient, sinon il n'y aurait pas eu d'histoire quelque part, il n'y aurait pas provoqué. Du coup, on avait parlé de... Une chose qui t'intéressait par rapport à ton autre métier donc d'enseignante, c'est de communiquer dans une langue avec quelqu'un dont on n'est pas sûr ni qu'il vous comprenne ni que vous le compreniez. Donc, est-ce que tu peux développer ou en quelques mots cet aspect dans le roman que tu as un peu vu aussi, rendu plutôt dans les attitudes et les dialogues inter-espèces, si on peut dire.
Alors ça, après, c'est des choses... Enfin, c'est plutôt dans les lectures finales que j'ai compris d'où venaient ces problèmes de dialogue et de compréhension avec ces... Elle le dit à un moment qu'elle commence à être fatiguée d'avoir échangé avec des créatures qui maîtrisent mal le verbe parce que c'est pas évident, ça provoque des malentendus. Et c'est vrai qu'à titre professionnel, en fait, j'enseigne le français dans un collège, donc j'ai des collégiens tout à fait classiques. Et à côté de ça, j'ai des élèves qui arrivent de l'étranger qui parlent peu ou pas français et qui ont été peu ou pas scolarisés. Donc, mon travail principal, c'est de leur enseigner la langue française. Et dans les premiers temps, quand ils arrivent et qu'ils n'ont jamais entendu de français de leur vie, il y a quand même besoin de quelques semaines où on apprend à se connaître, on essaie de communiquer comme on peut, on essaie d'avancer. Et finalement, il y a cette possibilité, je ne dirais pas que c'est une crainte parce qu'on apprend à faire avec, mais cette possibilité du malentendu perpétuel, ou même si les pays d'origine sont, enfin, quand on a des élèves qui viennent souvent des mêmes pays d'origine, on sait à peu près quels sont les impairs à éviter, mais parfois quand je les vois me regarder avec de grands yeux, je me dis mais si ça se trouve j'ai fait un geste qui est absolument grossier dans leur langue d'origine, enfin j'ai peut-être transgressé un code culturel que j'ignorais, fait une maladresse malgré moi. Et c'est à la relecture de Selma Lagerlöf contre les trolls que je me suis dit mais en fait oui, c'est exactement ça, elle est aussi là-dedans, dans la difficulté qu'il y a à communiquer avec l'autre, et a fortiori quand cet autre n'a pas du tout le même langage, où il va falloir essayer de trouver des mots, des choses communes pour se comprendre, non seulement se comprendre mais aussi s'entendre, dans le sens où on va pouvoir se mettre d'accord sur des choses à faire ou pas pour la suite.
Donc, c'est en fait, un écrivain fait feu de tout bois, quoi. Donc,
voilà.
Même inconsciemment.
Je pense que là, oui, c'est mon inconscient qui a parlé pour ça.
Voilà, donc en fait, quand je revois un petit peu, le peuple, tu en as parlé au début, donc tu penses que là, c'est quelque chose qui. Jusqu'ici, le peuple, moi, l'image que j'en avais, c'était plutôt de la bande dessinée, mais manifestement, non. C'était aussi des textes
aussi
écrits.
De la nouvelle.
Aussi
peut-être de la littérature de gare qu'on va acheter, enfin gare sans que ce soit péjoratif, attention, hein, mais du texte qu'on va, ou de la BD, pourquoi pas, qu'on va acheter en se disant, bon, allez, ça va m'occuper le temps d'un voyage en train, et puis je vais passer un bon moment.
Donc voilà, et c'est dans cette démarche donc que tu as effectivement de l'action, du rythme, des rebondissements bien sûr, et puis un mystère à résoudre pour pour faire oublier, pour ce qui est des anciens pulps en tout cas, ou des anciens romans de policiers, bah, que le train n'arrive pas, ou qu'on l'attend toujours. Au moins, pour l'instant, on ne s'ennuie pas, on passe un bon moment. Donc, effectivement, il y a cet aspect qui est intéressant, qui n'est pas souvent reconnu. Quand on écrit, souvent on ne dit pas les gens vont passer un bon moment, c'est presque un gros mot.
On l'espère quand même. Enfin,
on l'espère, mais on espère surtout qu'ils verront qu'on est torturé. Enfin, je parle de. Je fais des grosses caricatures de la littérature plus globalement. Donc, passer un bon moment, c'est oui, effectivement, c'est la première. Oui, c'est la première raison d'ouvrir un livre, finalement. C'est, ou de regarder un film. Ou d'écouter de la musique.
Sachant que là, en plus, il y avait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, mais je crois que je l'ai déjà dit, hein, tant pis si je radote, c'est le côté aussi militant qu'il y a dans la collection, dans le fait de se dire, le personnage, c'est une femme, a priori, elle est dans un monde où on ne va pas lui accorder beaucoup de pouvoir, et ben néanmoins, c'est elle qui, avec ses moyens qui lui sont propres, va réussir à sauver l'humanité, parce que c'est ça l'enjeu de...
Oui, c'est, bah,
à chaque fois, de c'est chacun des tomes de la Ligue des écrivaines extraordinaires.
Oui.
Elles sont là pour sauver le monde et elles le font discrètement sans rien demander à personne.
Oui, voilà, elle a essayé d'être discrète, enfin. Mais elle est tombée comme. Enfin, bref.
Pas le plus discrète, comme elles peuvent.
Voilà. Alors maintenant, on va un petit peu sortir de en partie donc, de Selma Lagerlöf contre les trolls. Et est-ce que tu as envie de. Je t'avais demandé si tu voulais nous citer, parler un petit peu d'un auteur ou deux ou d'un seul que j'aurais appelé un auteur tutélaire, quelqu'un qui t'a à une période de ta vie ou de ta période d'écrivaine t'a plu ou tu te dis tiens ou qui t'a inspiré quelque chose ou tu m'avais parlé de Terry Pratchett en particulier. Je sais pas si disons que l'histoire des trolls
Ben, je crois que les trolls lui doivent un petit peu et puis moi je lui dois un petit peu en tant que lectrice. Alors bon, ça va pas, je sais que ça a pas grand chose d'original de dire que c'est vraiment un auteur qui a beaucoup marqué ma vie, mais le fait est que c'est une réalité, hein. J'ai commencé à le lire quand j'étais étudiante et c'était mes premières semaines à la fac. Il y avait la bibliothèque à côté à laquelle je venais de m'inscrire. Il y avait une bonne partie de la collection des annales dans l'édition La Dalente, en fait. Et je m'étais dit, oh, il y en a une grande série. Si ça me plaît, ça va m'occuper un moment. Et en fait, je l'ai découvert sur ce critère, en disant, il y en a d'autres. Si c'est bien, ça va, j'ai des réserves. Et puis, bah, le fait est que non seulement j'ai trouvé ça bien, mais très, très bien, et que c'est un auteur que j'ai continué à lire, que j'ai continué à suivre. Quand il a annoncé sa maladie, ça m'a beaucoup touchée, alors que c'est quelqu'un que je n'ai pas connu personnellement. Je l'ai connu juste en tant que lectrice à travers ses livres. Mais c'est vrai que l'univers du Disque Monde m'a profondément marquée à plein de niveaux, que ce soit en termes d'imaginaire, en termes de réflexion toujours sous-jacente sur le réel, que ce soit pour cet humour britannique un petit peu piquant, pour le côté parodie aussi de fantasy, et puis pas seulement. Et puis la grandeur de ses personnages, parce qu'il a certains personnages récurrents qui sont absolument fabuleux.
C'est vrai.
Donc c'est vrai que mes trolls sont en pierre, mais peut-être aussi parce que j'avais rencontré chez lui d'autres trolls en pierre, avec des dents en pierre précieuse. Enfin, il y a des choses qui en viennent. Alors j'ai essayé de m'en détacher, hein, parce que c'est vrai que pour le troll que j'ai en tête en premier, c'est celui de Terry Pratchett. Donc j'ai essayé de l'évacuer, mais je lui dois néanmoins beaucoup. Et pas que pour les trolls.
Alors maintenant, l'heure avance. Est-ce que tu as un projet en ce moment sur quoi tu travailles? Parce que j'imagine que tu n'as pas arrêté d'écrire.
Non.
Et que est-ce que tu as un projet actuellement ou...
Alors j'ai plusieurs, j'ai plusieurs projets sur le feu. Un sérieux, un peut-être un peu moins, mais je me rends compte que celui qui est moins sérieux, c'est peut-être celui finalement dans lequel je vais me lancer en premier. Mais c'est vrai que moi, mon projet sérieux, parce que c'est quand même lui que j'aimerais terminer, même si parfois je me dis que ça vaut peut-être le coup de passer à autre chose, ce serait plus un roman d'anticipation proche, à la fois très noir, très violent, et puis néanmoins avec beaucoup d'espoir au niveau des individus qui traverseront ces choses noires et violentes. Voilà, je ne sais pas si j'en dis trop.
Non, non, bah, tu n'as.
Pour l'instant, c'est encore.
C'est un roman.
Oui, ouais,
c'est un
oui.
roman. Parce qu'en fait, moi, comme je te connais, c'est plutôt par la science-fiction. Donc, du coup, c'est vrai que est-ce qu'on peut dire que Selma Lagerlöf est un peu une nouvelle façon pour toi de travailler dans l'imaginaire, ou est-ce que tu es dans ce que tu crées parce que tu t'es présenté, mais tu n'as pas parlé de ce que tu as déjà écrit?
Oui, c'est vrai.
Donc, tu peux peut-être nous en dire quelques mots par rapport
Alors,
à qu'on
alors bah,
puisse
j'ai
déjà
publié.
les.
Oui. Alors, c'est amusant parce qu'en fait, c'est vrai que Selma Lagerlöf contre les trolls, c'est un roman de fantasy, hein, clairement, parce que c'est quand même la magie et les créatures surnaturelles qui dominent. Mais les choses, je pense, qui, moi, me tiennent le plus à cœur sont vraiment liées à de la science-fiction, à un cadre scientifique, technologique, aussi extrapolé puisse-t-il être. Donc, par le passé, j'avais écrit une première nouvelle de fantasy il y a très 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 longtemps aux éditions Souffle du rêve qui s'appelait Pharmacopée, où c'était déjà quelque chose de parodique. Hein. Là, par contre, j'étais aussi un petit peu influencée par Terry Pratchett déjà à l'époque, où c'était une histoire à base de licorne. Parce que bon, les licornes, c'est quand même pas. Enfin, je ne suis pas une grande amatrice de tout ce qui est rose, les paillettes, etc. Donc là, les licornes, finalement, c'était un peu un accessoire, hein, c'était un peu secondaire dans cette histoire. Et par la suite, j'ai commencé à écrire plus sérieusement des nouvelles de science-fiction, dont deux qui sont parues là ces dernières années. Et c'est plus dans ces univers que je m'y retrouve, en tout cas, où j'ai le plus envie de pousser les choses. Et Selma Lagerlöf, ça a été l'occasion pour moi de m'apercevoir déjà que je pouvais aller au bout d'un texte plus long que ce que j'avais l'habitude d'écrire, et
Oui.
aussi que j'étais capable de faire un pas de côté et puis de me dire, bon, je vais arrêter de chercher si tel élément scientifique est crédible ou pas. Non, bon, j'ai envie qu'il se passe ça, allez, il va se passer ça. Et tant pis
Yes.
si c'est pas.
Si c'est
Tant
pas
pis si apparemment la science ne serait pas tout à fait d'accord.
Mais c'est sûr que c'est comme il y a de toute façon, il y a plusieurs choses dans la SF déjà. Donc du coup, tu as un roman de SF en projet, en gros, on peut dire ça.
Voilà.
Voilà. Et en attendant, ben, on va lire déjà Selma Lagerlöf contre les trolls. Et du coup, c'est. Alors, j'ai une question.
Oui, je la vois.
Alors, vous pouvez parler de l'illustration. Alors, on avait parlé un petit peu en introduction. C'est qu'on ne voit pas les écritures.
Alors, oui, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur
Alors,
l'illustration, mis à part qu'elle est absolument superbe, mais bon, ça va
oui,
être
et
rapide.
alors derrière, il y a un troll.
Oui.
Et ce qui est intéressant, c'est le caractère qui.
Eh oui, alors si j'ai peut-être une petite anecdote sur les illustrations, c'est qu'elles ont été proposées pendant l'écriture, et quand je l'ai reçue, j'ai eu un grand moment de blocage et d'incertitude, parce que on la voit tenir un fusil.
Oui, c'est ça.
Et moi, ça m'a beaucoup perturbée, parce que je me suis dit, oh là là, alors je sais qu'une illustration, c'est pas forcément exactement ce qu'il y a à l'intérieur, mais comment je vais faire? Parce que pas une seule seconde, je voyais de moments ou d'occasions, puis ça ne correspondait pas au personnage. Enfin, pour moi, si elle avait un fusil en main, c'est parce qu'elle le ramassait par terre pour le poser. Enfin, c'était pas. Donc finalement, il y a une scène avec un fusil, mais c'est pas elle qui le tient, parce que je la voyais comme un personnage non violent, puis physiquement pas très solide non plus, donc pas une combattante. Donc le fusil, il apparaît, il se fait promener dans la forêt aussi, hein, ce fusil.
Oui.
Mais elle ne se trouve pas amenée à l'utiliser, parce que de toute façon, face à un troll, c'est comme tirer sur un mur ou dans une falaise, ça n'a pas beaucoup d'efficacité.
Non, puis ça, elle tire sa force d'autre chose justement que de
Oui.
cette arme à feu, quoi. C'est une femme puissante quand même.
Voilà, sa
C'est
puissance vient
voilà.
d'ailleurs, ce n'est pas du tout
D'ailleurs, voilà.
une puissance physique.
Voilà. Ni en tout cas armée, je ne sais pas si ça peut se dire. Donc voilà, je ne sais pas si on a répondu à la question, je pense un petit peu. Du coup, l'heure avance. Donc moi, ce que je conclurai, c'est d'abord, je voudrais te remercier d'avoir accepté cette invitation. Et puis qu'en fait, ceux qui veulent te rencontrer en vrai et
Voilà,
qui
je
sont
serai.
autour de Nantes, c'est à partir de. C'est jeudi, c'est ce soir que
C'est
ça a
demain?
commencé. Demain,
Ça
c'est
commence
demain.
demain. Oui.
Demain, qu'à partir de demain, les Utopiales en vrai recommencent et
Et
donc il
oui.
y aura des écrivains et entre autres, il y aura toi,
Alors moi,
Lauriane Goury.
j'y serai en tant que visiteuse avec quand même quelques exemplaires dans mon sac. Mais j'y vais surtout pour profiter de l'ambiance, assister à des tables rondes. Mais c'est avec grand, grand plaisir que je rencontrerai qui souhaite discuter, hein, tout simplement, que ce soit de
Voilà.
Selma Lagerlöf ou de quelque chose d'autre.
En tout cas, c'est donc et oui, ce que je voulais aussi préciser, c'est que c'est notre émission est en streaming actuellement, donc en direct, mais qu'elle va être, elle sera visible. Donc s'il y a des gens que ça peut encore intéresser, je pense surtout à des gens qui ont envie de lire, qu'elle sera sur le site des Vagabonds des Rêves. À disposition et qu'il y aura un article qui sera publié sur la tribune. Donc la web revue dont j'ai parlé quand on a introduit notre émission. Donc voilà, donc je te remercie encore
C'est
beaucoup,
moi,
Lauriane.
merci
C'était
beaucoup.
un
Ça m'a fait.
plaisir.
J'ai passé un très bon moment. Je te remercie. Ça
Voilà,
m'a
et puis.
fait grand, grand plaisir aussi de participer à cette première émission.
Et puis c'est peut-être un peuple, mais c'est un beau livre, même en tant qu'objet. Hein, c'est du beau papier, c'est une belle création, une belle
C'est
histoire.
une très
Donc
belle collection.
voilà, puis une belle histoire surtout.
Merci.
Voilà, et puis donc je te dis à très bientôt hein, sur les ondes, et puis peut-être à Orléans, hein, quand
Espérons.
j'aurai l'occasion de passer, peut-être voir rencontrer les SFistes, je ne sais pas si ça se dit, orléanais. En tout
Si,
cas, tu
ça
leur
devrait être.
passes le bonjour de la
Ce
part
sera
des
fait.
Vagabonds du Rêve et de moi en particulier. Voilà, donc on termine là-dessus. Vous pouvez donc revoir, j'insiste, l'émission et puis vous pouvez encore poser des questions hein, sur le site des Vagabonds du Rêve et puis bien sûr, on y répondra. N'hésitez pas et puis surtout, je vous dis à bientôt. Donc, pour continuer notre émission, le 11 novembre, on reçoit une autre personne qui écrit elle aussi plutôt de la SF, c'est Kitty Stewart pour son dernier livre qui s'appelle donc le. Enfin, j'ai un blanc. C'est
Les
oui.
évangiles selon Myriam. Non, c'est pas
Surtout que j'ai.
ça?
Si, l'évangile selon Myriam, pardon, chez Mnemos. Donc, de toute façon, on en parlera. J'ai pas fini de le lire, donc je vais d'abord le
Je l'ai pas
terminer.
encore lu. Je connais que le titre.
D'accord. Eh ben, je te conseille de le lire parce que c'est
Non,
un
mais
très
je
beau
compte
livre
bien le faire.
aussi. Voilà, donc je vous dis au revoir et puis écoute, bonne continuation et puis à bientôt. Alors, à très bientôt
Merci,
sur.
merci encore pour l'invitation.
Merci et puis au revoir.
Au revoir.
Au revoir à tous. C'est ceux qui nous regardent.
Et oui, au revoir.
Au revoir.